BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre culture financière, qui vous aide à devenir meilleur investisseur et meilleure investisseuse. On est à la radio, on est à la télé, on est sur le web en direct tous les jours de 10h à midi. Et vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. Le programme de l'émission est dense. On va d'abord se demander si les assureurs prennent les Français pour des jambons. Oui, ce sera l'édito coup de gueule d'Albert Nantoir de Nalo qui va nous dire que l'assurance vie porte vraiment mal son nom et que ce n'est pas étonnant que les Français soient réticents à l'idée d'ouvrir une assurance vie pour investir et préparer la suite de leur projet de vie. À 10h30, votre dose d'économie comme tous les jours avec Nicolas Adose. Comment Bruno Le Maire compte-t-il augmenter les salaires nets? Réponse à 10h30. Côté bourse, c'est Antoine depuis Euronext qui est en train de se connecter ainsi que nos deux traders pour suivre la séance du jour dans le match des traders. On parlera de la bourse en temps de guerre. Comment les bourses se sont-elles comportées lors des derniers conflits? Aussi surprenant que cela puisse paraître, les marchés se soucient parfois comme d'une guigne des conflits armés depuis le début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin, en 1945. Le Dow Jones a gagné plus de 50% au total, soit plus de 7% par an. Julien Debenzal pour décrypter ce paradoxe. Et puis on vous coach aujourd'hui comment identifier et réagir en cas d'arnaque. On va faire un petit tour d'horizon des différentes pyramides de Ponzi, des différents Madoff. Alors on parlera du Madoff de la crevette, du Madoff du Maine-et-Loire, du Madoff du Texas. Quelques conseils pratiques pour savoir comment réagir. Et puis on sera avec un spécialiste de la Chine pour faire le point sur les marchés actions côté Chine en deuxième partie. Et puis on se demandera comment débuter une collection, comment estimer la valeur d'un objet. Notamment on parlera du cigare de Churchill. Ce sera avec la maison Christie's en deuxième partie d'émission. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre, à nous écouter en direct et en podcast. Merci à vous toutes et tous. Vous nous écrivez, vous participez à cette antenne. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien en message privé sur LinkedIn. Je vous lis, comme Nicolas et Bernard qui m'ont écrit depuis ce matin. C'est l'heure de passer une tête du côté d'Euronext, de voir ce que fait notre CAC 40 depuis le début de la séance. CAC 40 plutôt indécis depuis ce matin, cher Antoine.
Oui, il ne fait pas grand-chose. Effectivement, notre CAC 40, on est en très légère baisse, à moins 0,18%. 8137 points, pas impossible qu'on aille chercher les supports les plus bas de ces dernières semaines du côté des 8125 avant d'essayer de réamorcer quelque chose. Pour l'instant, c'est mal parti. Le DAX à Francfort, mieux orienté, plus 0,13%. On a moins 0,03% au compteur pour l'Eurostock 50. Puis à noter que ça frissonne du côté des indicateurs de volatilité, le VIX, notamment l'indice de la volatilité du côté des États-Unis qui grimpe un petit peu au-delà des 13 points. Alors rien de spécial, on ne sent pas forcément un marché tendu, c'est une semaine un peu technique, il n'y aura pas beaucoup de statistiques à venir, il n'y aura pas beaucoup de résultats d'entreprise, en plus ce sera une semaine écourtée, on aura un week-end de 4 jours, le week-end de Pâques, donc du coup on sent les investisseurs sans trop d'idées en ce moment, on reste quand même sur des allègements assez marqués autour des valeurs de croissance, notamment LVMH qui signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 1,16%, 819 euros. On a Pernod Ricard moins 1,11, 146,50 €. À noter aussi Hermès moins 0,7%, on est à 2370 €. Et puis Société Générale dans le secteur bancaire qui signe une baisse d'1,2% à 24,23. En hausse sur le CAC 40, à noter Thalès, meilleure performance du moment, plus 1,4% à 159,40 €. Eurofin Scientifique plus 1,32 à 56,70. On a Safran plus 0,8% à 208,95 €. Michelin aussi plus 0,42% à 35,50, donc des valeurs vraiment très défensives. Leader du SBF 120, c'est Valneva, plus 4,5% à 3,61. Le CAC 40, moins 0,2%, 8135 points. L'once d'or fin a signé un nouveau record absolu, un petit peu plus tôt ce matin, à 2179 $. Et puis fermeté des cours du brut aussi, 85,30 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord.
Merci Antoine. On vous retrouve dans une heure où on parlera de guerre aussi un petit peu avec vous. On zoomera sur le secteur de la défense. À tout à l'heure.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et le lundi matin, pour vous servir aux manettes, je pique le directeur des marchés européens de Trade Republic pour faire la revue de presse. Bonjour Mathias.
Bonjour Lorraine.
Mathias Bacino avec nous pour couvrir les actualités qu'il faut maîtriser en ce lundi matin pour être un pas trop mauvais investisseur particulier. On va démarrer en parlant de déficit public avec une question. Est-ce qu'il faut avoir peur pour notre épargne quand on voit les montants du déficit public, Mathias ?
Il faut rester vigilant, c'est un élément essentiel. Donc le contexte, c'est que demain, on connaîtra le chiffre réel du déficit public 2023 et qu'a priori, on est bien loin de la règle des 3%, qui est la fameuse règle indépassable des marchés européens. On est au-dessus de 5% pour le déficit public français en 2023. Sans pandémie, donc c'est un vrai gros problème. Ça m'a inspiré un petit message ce matin qui est attention aux fausses bonnes idées fiscales. On sait que pour l'épargne en France, la dimension fiscale, c'est-à-dire les réductions éventuelles d'impôts que vous pouvez avoir en investissant, en épargnant, sont un driver essentiel de l'épargne, en tout cas dans la tête des pouvoirs publics. Et donc, on pourrait imaginer que ce soit cette fiscalité-là qui soit durcie pour faire face à ce déficit un peu extraordinaire auquel on est confronté. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est quand j'ai lu dans la presse que la flat tax, donc les fameux 30% de fiscalité sur les plus-values sur le capital, c'était un impôt qui était payé uniquement par les gens aisés. C'est pas vrai, messieurs, dames.
Vous avez lu ça ?
J'ai lu ça dans la presse à plusieurs reprises, dans des déclarations de cadres de la majorité. Et donc, je dis attention, il n'est pas nécessaire à un moment où, pour la première fois, vous avez toute une génération qui s'intéresse à l'investissement, eh bien, de vouloir casser cette dynamique avec des a priori du XXe siècle, à base de « seuls les riches investissent ». Ça n'est plus le cas aujourd'hui, messieurs, dames, les décideurs.
Voilà, au revoir les fausses bonnes idées politiques. On parle des marchés cette semaine, en particulier sous un angle américain, parce qu'on attend pas mal d'indicateurs côté Nord-Amérique.
Ah là, c'est vraiment le sujet du moment, je dirais, puisque les résultats d'entreprise sont terminés. On n'est pas encore dans la baisse des taux. Donc la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est à quel moment la Fed va baisser pour la première fois ses taux. Est-ce que ce sera au mois de juin ? Oui, non. Ça va dépendre en partie de tous les chiffres qui seront publiés cette semaine. Confiance des consommateurs, santé de l'immobilier, PIB jeudi, très important, on l'attend à plus 3,2%, on en rêverait presque en Europe. Et vendredi, évidemment, l'inflation. C'est le seul caillou dans la chaussure, je dirais, aujourd'hui de l'économie américaine, puisque l'économie américaine tourne bien, le chômage est bas, la croissance est relativement élevée, en tout cas si on la compare à la croissance en Europe. Donc le gros sujet, ça va être l'inflation de vendredi et le discours de Jérôme Powell qui suivra donc toujours vendredi. On a attendu pendant très longtemps un hard landing de l'économie américaine dans le contexte actuel. Il n'arrive pas. On a attendu ensuite un soft landing de l'économie américaine qui, pour l'instant, n'arrive pas vraiment. Donc je mets sur la table, et on en reparlera dans les semaines qui viennent, le scénario du no landing, c'est-à-dire une économie américaine qui irait bien dans la durée. Et bon courage là à Jérôme Powell pour essayer de prendre une décision claire sur l'économie va bien. Est-ce qu'on doit forcément casser la dynamique économique pour réussir à faire baisser cette inflation ? Et là, un des mots-clés, ce sera peut-être le pétrole. On en a parlé il y a 2 semaines, le pétrole était reparti à la hausse. Il faut que le pétrole reste sous les $100, entre autres pour justement maintenir cette inflation américaine relativement basse et permettre une éventuelle baisse des taux au mois de juin.
Voilà, évidemment, ces informations à suivre pendant toute la semaine sur BFM Business avec le pétrole qui tourne autour des $81 ce matin, hein, le crude, et puis le Brent autour de $85. Un mot pour finir d'un sujet qui inquiète certains et certaines d'entre vous, c'est Apple. Les nouvelles sont nombreuses et pas toutes très bonnes. Quel est votre regard, Mathias, sur Apple ?
Apple, c'est un sujet qui est important parce que c'est l'action préférée des investisseurs particuliers depuis plusieurs années. Il y a eu Tesla à un moment donné, évidemment Nvidia ces derniers temps, mais de manière générale, Apple, je suis prêt à parier qu'il est dans de nombreux portefeuilles de celles et ceux qui nous écoutent, donc c'est un vrai sujet. Apple, qui a été pendant longtemps la première capitalisation mondiale, est aujourd'hui attaquée de deux côtés, je dirais. Un premier côté, c'est des critiques sur sa stratégie de croissance, puisque avec des programmes de rachat d'actions et une utilisation du cash qui, certaines années, correspondait à 98% du résultat, eh bien, on est en droit de se demander si Apple a encore des idées et sait quoi faire de son cash autrement que de le rendre aux actionnaires. Donc ça a été sur les programmes de rachat d'actions, ben voilà, est-ce que Apple en fait trop? Ça a été un premier news flow, je dirais, relativement négatif, parce que quand on rend le cash aux actionnaires, cela signifie en général qu'on a moins d'idées pour sa croissance. Donc un vrai sujet, entre autres avec l'arrêt du projet d'automobile intelligente et autonome qu'Apple portait depuis plusieurs années maintenant. Le deuxième sujet, c'est évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire le département américain de la justice qui s'attaque à Apple très directement pour un comportement monopolistique sur l'industrie des smartphones, indiquant que Apple était accusé de brider les développeurs d'applications, les concurrents, etc. par son écosystème. Donc, ce qui pourrait venir, évidemment, réduire ses marges et donc son résultat net in fine. Donc Apple est sous pression, d'ailleurs ça s'est bien ressenti en bourse ces derniers jours, et on surveillera les $180 puis les $165 sur Apple. On pourra viser en cas de rebond, si le news flow venait à s'améliorer, $200, mais ce qu'on surveillera avant tout, c'est, je crois, la commercialisation de l'Apple Vision Pro dans le monde de manière générale, qui sera un bon témoignage de la capacité d'innovation du géant américain.
Voilà, Apple en a-t-il encore sous la pédale? Évidemment, valeur qu'on continue à suivre au quotidien sur notre chaîne. Merci Mathias pour ce regard sur l'actualité. Vous restez avec nous dans quelques minutes, on parlera d'une femme. On parlera de la reine des dividendes. Est-ce que vous connaissez Géraldine Weiss? On en parle, on fait son portrait dans quelques minutes. Et puis, ce sera aussi le temps d'un coup de gueule dans quelques minutes avec Albert Dantoir de Nalo, qui nous dira que les assureurs prennent les Français pour des jambons, certains d'entre eux. À suivre. Avant ça, on passe une tête chez nos traders pour savoir ce qu'il faut faire dans une journée comme celle-ci sur les marchés.
Tout pour investir. Le match des traders.
Nos deux traders ce matin, c'est Jean-Louis Cussac du côté de Perceval Finance Conseil et Stéphane Sauduteil du site technibourse.com. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Stéphane, on va démarrer avec vous avec une question. Va-t-on enfin corriger aujourd'hui et puis bon, hein, cette semaine?
Écoutez, ça fait déjà 5 semaines hein, qu'on ne fait plus grand chose. On n'arrive pas à corriger, on n'arrive pas à mettre en place de nouveaux records durablement. On est coincé hein, dans un range de 100-150 points environ, entre 8120 et 8250. Après une performance quand même assez extraordinaire, hein, puisqu'on a pris 13% depuis le 15 janvier, 21% depuis fin octobre. Alors c'est vrai que on manque maintenant clairement de catalyseurs. Alors je suis pas sûr que cette semaine nous apporte vraiment les catalyseurs nous permettant de passer par le haut de ce range ou l'enfoncer. On n'a que la confiance des consommateurs demain et puis le PIB vendredi et puis surtout l'indice des prêts à la consommation des ménages vendredi. Vendredi sera férié, c'est vendredi saint, donc attention quand même, puisque les marchés seront fermés aussi lundi, on rouvrira que mardi, attention quand même à ce week-end un petit peu dangereux. Si on aurait un premier signe de correction, enfin de petite correction sur rupture des 8120 points, on n'en est pas très très loin. Il est tout à fait possible hein, qu'on finisse par enfoncer ce niveau et aller chercher un petit peu plus bas. Alors le plus bas, ça serait 7825 points. C'est le premier gap resté ouvert le 22 février dernier. Gap de 24 points qui resterait pour moi un objectif de correction et il faudrait casser cette zone, combler totalement ce gap pour enclencher un mouvement un petit peu plus correctif vers les 7700, 7680. Alors, l'autre niveau de correction possible, c'est 7550 points, mais bon, on est quand même très très loin de ce niveau. Il faudrait vraiment quelque chose de négatif hein, pour arriver jusque là. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à me projeter quand même clairement au-dessus des 8250 points après cette flamboyante hausse. Je pense que il faudrait quand même revenir un petit peu en arrière pour prendre des appuis un petit petit peu plus sérieux et pour peut-être attaquer à un moment ou un autre dans cette année les 8250 points. Donc voilà, marché toujours identique quasiment hein, depuis 5 semaines. Hein, si on achète vers 8120 et qu'on vend vers 8200 points et si on vend vers 8200 et qu'on rachète vers 8120 points, et ben depuis 5 semaines, on gagne un petit peu d'argent. Donc je suis pas sûr que ça dure encore énormément longtemps, mais c'était quand même une stratégie assez payante, assez rémunératrice. Mais attention quand même, hein, cette longue phase de consolidation horizontale pourrait quand même finir par devenir un petit peu plus baissière à un moment ou à un autre.
Merci Stéphane. Jean-Louis, corrigera pas?
Écoutez, j'étais en train d'écrire tout à l'heure, justement, retracement à démarrer, point d'interrogation, c'est encore un peu agressif de le penser. Toutefois, quand on regarde un petit peu la forme du marché France, hein, enfin, il y a quand même quelque chose qui permettrait de le penser, que ça va démarrer. Quand on regarde le DAX, un peu moins, il est quand même sur ses plus hauts. Regardons LVMH, par exemple, eh bien, voilà. Elle est au bord d'un signal de retournement à la baisse. Elle est pas loin. Peut-être, par exemple, sous 818, quelque chose comme ça. Il faudra voir un petit peu en fonction de la journée. Mais, elle est pas loin d'un signal de retournement. Après, moi, j'aime bien regarder des valeurs comme Schneider. Souvent, je les considérais comme des éclaireurs un peu. Elle démarrait un peu avant les autres. Elle rebaissait un peu avant les autres. Mais là, elle est au plus haut. Donc, il y a toujours cette forte divergence entre les comportements, donc des actions. C'est-à-dire les plus fortes restent fortes, les plus faibles restent faibles. C'est compliqué de trouver des choses claires. On voit que L'Oréal, par exemple, donne des signaux de fébrilité. Voilà. Donc, on pourrait en effet penser que le marché va passer un peu la semaine à digérer tout ça. Comme l'a dit Stéphane, c'est une petite semaine écourtée avec un week-end de 4 jours derrière. Il n'y a rien de puissant, si vous voulez, à l'instant T, sauf que l'idée, c'est de se dire, la volatilité implicite, là, elle commence à baisser sérieusement, on est passé à un mois vers 10, on est à 3 mois, on est toujours autour de 11 et quelques, mais voilà, on a des petits indicateurs comme ça qui nous font penser à être prudent, à déclencher des petits warnings, mais les grosses alertes qu'il y avait eu avec Nvidia, le marché US, tout ça, ça a été plus ou moins effacé. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, une période où il faut faire preuve de patience, d'hypersélectivité, et peut-être qu'il faut aussi profiter de cette volatilité implicite très faible pour se couvrir avec des puts. Ils sont vraiment, en termes de vol, pas chers. On regardera l'euro-dollar qui sait pas trop où il va. Hein, vous avez vu, il avait fortement monté avec la Fed, derrière il a rebaissé. C'est-à-dire que la dynamique de croissance pour la zone Europe, elle est quand même pas si mal pour les prochains mois. Et elle devrait être un petit peu un soutien pour l'euro-dollar et aussi donc pour les sociétés. Alors voilà, vous avez comme ça des indications un peu divergentes à tous les niveaux. Donc c'est une situation pas facile où il faut faire preuve, je pense, d'une très grande patience avec beaucoup de méfiance.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre regard sur cette semaine, vous l'avez dit, écourtée. Notez, chers auditeurs et auditrices, que nous, on sera en direct les 5 prochains jours. Parce que Tout pour investir, ça ne s'arrête pas, même quand les marchés ferment. Merci Stéphane, merci Jean-Louis. On vous retrouvera plus tard dans la semaine pour continuer. Eh bien, à voir hein, si vous avez raison, bien vu ou pas. On continue à parler de l'actualité qui nous concerne en tant qu'investisseurs particuliers avec nos débatteurs du lundi.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Mathias Bacino de Trade Republic est resté avec nous. Rebonjour Mathias.
Bonjour.
Et nous sommes rejoints par notre CGP du jour, François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Lorraine.
Qui va pousser un petit coup de gueule lui aussi aujourd'hui, mais surtout nous coacher tout à l'heure. Et puis vous Albert Dantoir, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Directeur de la clientèle privée chez Nalo. Et on démarre avec vous. Un petit coup de gueule pour démarrer cette semaine.
Allez.
Vous nous demandez si les assureurs prennent les Français pour des jambons.
Eh bien écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous avez 75 ans, votre mari est décédé lorsque vous en aviez 58 et il avait une assurance décès. Et vous continuez cette assurance décès et vous dites, ça me servira bien un jour pour mes vieux jours, mon aide à domicile, ma succession ou toute autre chose. Et là, vous recevez un courrier à l'âge de 75 ans pour vous dire, votre contrat est terminé, merci, au revoir. Et là, vous vous réveillez, vous dites, j'ai mis des dizaines de milliers d'euros de côté, s'il est terminé, peut-être qu'on va me rendre l'argent. J'appelle l'assureur auprès duquel j'avais souscrit cela. Et en fait, c'est une assurance d'essai qu'on appelle à fonds perdus. sauf que c'est un terme que la dame ne connaissait même pas. Et je pense que vous faites un micro-trottoir dans la rue et vous demandez aux gens s'ils savent ce que c'est qu'une assurance d'essai à fonds perdus, je pense que personne ne sait trop. Ouais,
moi, je ne sais pas, Albert.
Voilà. Mathias, que je connais depuis longtemps, donc qui est assez professionnel, il ne sait pas. Donc, c'est une assurance d'essai. En fait, il y a un âge à laquelle elle s'arrête, et à fonds perdus, c'est-à-dire que tous les fonds que vous avez mis dedans sont perdus. Ils sont à l'assureur parce que votre décès n'est pas arrivé avant cet âge-là. Donc, c'est pas forcément une mauvaise idée de le faire, parce que comme on dit toujours, il faut personnaliser les investissements, les assurances et l'épargne. Mais le problème, je pense, c'est que certes, on pourrait se dire cette dame aurait pu s'informer avant, sauf que c'est pas à elle de s'informer, c'est à son conseiller de la conseiller et de lui redire d'ailleurs même régulièrement ce qu'elle est en train de faire et à quoi ça l'engage, et que son argent peut-être perdu à un moment ou à un autre. Voilà mon coup de gueule du jour.
On a un problème de wording, comme on dit. On a un problème de qualification par des mots. L'assurance vie, l'assurance décès, tout ça, c'est très flou. François-Xavier, dans votre clientèle, c'est ce que vous observez?
Il faut faire preuve de pédagogie. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai une clientèle un peu particulière, parce que j'ai une clientèle qui est... Moi, le ticket moyen dans mon cabinet, c'est 1 million d'euros. Donc forcément, c'est des gens qu'on accompagne énormément, où on couvre tous les sujets, où on fait appel à des spécialistes.
On comprend que la personne dont vous nous parlez, Albert, était pas mal lotie.
Elle était pas sans rien non plus.
Non, mais c'est le souci, c'est que souvent on a des personnes qui font de l'approche produit, qui vendent du produit, et en fait le souci là, c'est la démarche qu'il y a eu lors du conseil qui a été fait à la base, c'est qu'on a probablement des personnes qui étaient incentivées à vendre des produits et à pousser de l'assurance d'essai. Quand vous avez certains courtiers où on leur dit c'est le mois du blanc, ce mois-ci tu nous vends uniquement de l'assurance d'essai, ils vont coller de l'assurance d'essai à tout le monde, et on se retrouve avec des défauts de conseil, parce que avec du recul ça ressemble à du défaut de conseil, puisqu'il y a une inadéquation entre le besoin et le produit qui a été conseillé. C'est le souci de l'approche produit, c'est le souci de la vente, et surtout du manque de suivi qu'il peut y avoir par la suite.
Et je dirais même qu'à la fin il y a un petit déséquilibre, parce que cette dame qui est âgée aujourd'hui, elle va pas faire un procès, enfin si vous voulez, elle est rien par rapport à tout ça. Donc il y a ce problème-là aussi, je trouve.
Elle peut faire une réclamation client.
Elle peut faire une réclamation client, mais bon, ça peut prendre longtemps.
Non, il y en a qui ont dit « mon ennemi, c'est la finance ». Moi, mon ennemi, c'est le jargon. Parce que le jargon, au-delà du snobisme qu'il peut y avoir dans le jargon pour la profession, c'est un outil de contrôle, c'est un outil de pouvoir. Et donc, j'encourage évidemment toute l'industrie financière à oublier ce jargon et à reparler de finance dans des mots simples. Si on avait expliqué à cette dame aussi simplement que tu viens de le faire, Albert, la situation ne serait pas passée.
Aussi d'éviter la réglementation à outrance dans tous les sens. Aujourd'hui, pour s'assurer que la personne comprenne, on lui donne ça de documents à lire. Non, il faut donner un recto avec les points principaux, point. Sinon, personne ne les lit.
Voilà, on participe à l'éducation financière. Alors, ce n'est pas le mois du blanc, c'est la semaine de l'épargne salariale. Vous connaissez ma passion, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous suivent, pour les marronniers. Néanmoins, c'est notre travail de parler, d'évangéliser cette semaine de l'épargne salariale. Alors, on n'attend pas la semaine de l'épargne salariale pour parler d'épargne salariale dans Tout pour investir. Néanmoins, François-Xavier, quelques chiffres pour qu'on comprenne bien l'envolée de l'épargne salariale, qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Exactement. L'AFG vient de sortir les chiffres 2023 de l'épargne salariale, et on a en cours une hausse de 15,7% de l'épargne salariale sur l'année 2023. Donc on se dit, les gens se sont rués sur l'épargne salariale pour verser. Eh bien non, c'est essentiellement un effet marché, puisqu'en fait, souvent, on a de l'épargne salariale quand on fait partie de grands groupes. Par exemple, vous aviez l'épargne salariale, c'est tout ce qui est PE, plan épargne entreprise, c'est tout ce qui est PER collectif, donc plein épargne retraite collectif mis à disposition donc des entreprises où on peut faire des abondements dessus. Donc c'est très intéressant pour les salariés. Si vous en avez, faites-le, vraiment je peux que vous encourager à le faire. Et ça représente aujourd'hui quand même 187 milliards d'euros en France, donc c'est quand même massif. Et en fait l'an dernier ça a surtout été porté par un effet marché, parce que quand vous étiez par exemple un salarié de chez L'Oréal, l'an dernier vous étiez généralement investi beaucoup sur les titres de la société dans laquelle vous étiez, donc par exemple L'Oréal, et vous avez eu une envolée du coup du cours de cette action et donc de votre PE. Et en fait cette hausse de l'encours a été essentiellement portée par la hausse des marchés. À signaler que depuis 2012, il y a eu 47% d'ouverture en plus de plans épargne entreprise. Donc c'est extrêmement intéressant.
À peu près 400 000 entreprises offrent des dispositifs.
Exactement, 400 000 dispositifs, ça fait 12,5 millions de personnes en France. Donc sachant qu'il y a à peu près 30 millions de personnes qui sont actives, en tout cas éligibles au fait de travailler en France, c'est quand même massif. Et surtout, il ne faut pas oublier, ce n'est pas que dans les grandes entreprises. On a tendance à se dire que c'est uniquement chez les gros. Non, quand on est un chef d'entreprise et qu'on a un salarié, on peut ouvrir ouvrir un plan épargne entreprise. Et il ne faut pas oublier que surtout dans les petites entreprises, c'est aussi un moyen pour donc le chef d'entreprise d'attirer des salariés. Ça permet de fidéliser, ça permet d'attirer du monde et ça permet aussi d'optimiser sa propre rémunération. Donc l'épargne entreprise, c'est super pour petits et grands. Faites-en, c'est super, c'est abondé. Et si jamais vous êtes chef d'entreprise en ce moment, vous êtes probablement en train de finaliser votre compta avec votre expert comptable, parlez-lui en, il vous incitera à en faire.
Voilà, 187 milliards, c'est l'encours de l'épargne salariale. Nous n'attendons pas 8 mars pour parler femmes et finances. Cher Mathias, nous voulions finir cette revue d'actualité avec le portrait de Géraldine Weiss. Madame Dividende, racontez-nous qui est Géraldine Weiss, ou qui était Géraldine Weiss.
Bien sûr, Géraldine Weiss, c'est une femme déjà très inspirante et qui peut aussi peut-être nous donner à penser au rôle des femmes dans le secteur financier, quelque chose qu'on souhaite encourager évidemment, que ce soit en tant qu'investisseuse particulière ou dans le secteur d'ailleurs. Donc Géraldine Weiss, c'est quelqu'un qui a dû écrire sous un pseudonyme pendant 10 ans. Géraldine Weiss, c'est la première, je dirais, finfluenceuse dividende, puisque donc on est dans les années 60, et Géraldine Weiss, qui avait donc une passion pour l'investissement et entre autres pour les dividendes, cherchait un travail en tant qu'investisseuse. Elle n'en a pas trouvé. Elle a donc créé une newsletter, Investment Quality Trend. On se croirait en 2024, mais non, on est en 1966. Pendant 10 ans, elle a uniquement signé sous l'initiale G, puisqu'elle ne pouvait pas en fait être lue en tant que femme, ce qui nous paraît aujourd'hui évidemment incroyable. En attendant, elle nous a légué deux ouvrages vraiment importants hein, quand on est féru d'investissement d'actions à dividendes. Les dividendes ne mentent pas, et la Dividend Connection, donc deux ouvrages qu'on peut lire quand on se passionne pour les dividendes. Elle a été à la tête de sa newsletter donc de 1966 à 2002. C'était la papesse des dividendes. La newsletter s'appelait donc Investment Quality Trends, elle a duré jusque donc en 2002. Elle a piloté ensuite l'activité de la newsletter jusqu'en 2020, ce qui est à peine croyable, et continue aujourd'hui, une newsletter qui continue d'inspirer des centaines de milliers d'investisseurs particuliers aux États-Unis. Donc pour tous ceux qui sont passionnés de dividendes, c'est Géraldine Weiss la référence.
La papesse du div. Merci beaucoup pour ce portrait, Mathias Bacino de Trade Republic. Merci Albert Dantoir de Nalo pour ce coup de gueule. Vous reviendrez nous voir dans la partie actu pour participer à la petite bande qui décrypte les informations. Et vous, cher François-Xavier, on vous retrouve tout à l'heure, vous êtes notre coach. Nous allons aussi décortiquer un sujet qui fait peur, les arnaques. Vous allez nous parler du Madoff de la crevette,
oui.
Du Madoff du Maine-et-Loire, mais aussi du Madoff du Texas.
C'est ça. Crypto, bœuf, Aston Martin, bienvenue au pays des bébés Madoff.
Voilà, on va essayer d'apprendre à identifier les arnaques, et puis surtout, bon conseil d'hygiène financière, comment réagir si vous pensez être en train de vous faire arnaquer. Ça arrive à beaucoup de gens, aujourd'hui comme hier. On en parle, ce sera le coach dans un gros quart d'heure. D'ici là, rapide publicité, après Nicolas Dose arrive pour votre dose d'économie. Il va nous dire comment Bruno Le Maire compte augmenter les salaires nets. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, dose d'économie.
Votre dose quotidienne d'économie est ce matin un projet, celui d'augmenter le salaire net. Bruno Le Maire livre sa solution dans un entretien à nos confrères de Sud-Ouest. Que propose-t-il, cher Nicolas ?
La fameuse TVA sociale. Voilà, la fameuse TVA sociale qui consiste à prendre un énorme paquet de cotisations payées aujourd'hui par le travail, par les salariés. C'est un impôt sur le travail. Mmh. Hein. C'est un prélèvement obligatoire, même si ça finance derrière des dépenses assurantielles. Et donc, son idée, c'est qu'il prend 5 points de cotisation, 60 milliards d'euros, et hop, on met tout ça sur la TVA. Comme ça, on a un effet d'augmentation sur le salaire. C'est une baisse des impôts sur le travail. On n'a pas vraiment, en fait, des salaires si bas que ça en France quand on prend le super brut. C'est-à-dire que si vous prenez les cotisations dites patronales que le salarié a bizarrement l'impression qu'il ne paye pas, et les cotisations salariales, mais après, quand on arrive au net, il y a eu toute la montagne de prélèvements obligatoires qui sont intervenus au milieu pour financer l'assurance chômage, financer l'assurance santé, financer les retraites, qui coûtent de plus en plus cher, moins il y a d'actifs, plus c'est cher, et également financer la politique familiale. Derrière cette solution proposée par le ministre de l'Économie, il y a toujours l'idée que le travail doit payer davantage et créer cet écart indiscutable entre l'activité et l'inactivité.
Nicolas, est-ce que c'est une bonne idée ?
Ça peut être une bonne idée si on veut augmenter le salaire net. n'y a pas de problème. Après, il y aura des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs. Et c'est là où, généralement, le travail des économistes s'arrête. Il donne les éléments, les effets positifs et négatifs qu'on obtient avec un choix, mais le choix, ensuite, il est politique. Après, il y a un autre élément qui peut plaider pour cette solution, notamment au regard d'une note de Fipeco.fr qui a été dévoilée par l'Opinion ce matin, notre camarade François Eckhall, qui essaye de regarder un peu la structure des prélèvements obligatoires en France, et il constate que, alors certes, on a le record global des prélèvements obligatoires qu'on se dispute certains moments avec le Danemark, ça n'y a aucun problème. On a beaucoup plus de prélèvements chez nous sur le travail, plus de prélèvements aussi sur le capital, et bizarrement, moins de prélèvements que les autres sur la consommation. On n'est pas du tout au taquet en termes de TVA. Au Danemark, c'est 25% la TVA. Et donc, quand on regarde la moyenne de l'Union européenne, on se rend compte qu'on est au 25e rang en termes de taxation de la consommation. Donc on peut se dire que là, il y a une ouverture possible. Ensuite, vous faites les plus et les moins. Si je fais de la TVA sociale et que je bascule 5 points, soit 60 milliards vers l'impôt, je baisse le coût du travail. Il n'y a pas de problème. J'augmente le salaire net, il n'y a pas de problème. Je fais contribuer les touristes qui viennent dans notre pays et qui consomment. Et puis j'ai un effet compétitivité-prix. Parce que la TVA sociale, en fait, ça revient à faire une forme de dévaluation monétaire. C'est-à-dire que les produits que vous exportez, ils coûtent moins cher et donc vous les vendez plus à l'export. Et les produits que vous importez, eh bien, ils sont taxés à l'entrée. Celui qui paye à la fin, c'est le consommateur. Il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est là où on arrive dans les deux points qui sont... à arbitrer, monter la TVA, c'est faire de l'inflation. Et puis après, on vous objectera que la TVA a un côté injuste, parce qu'évidemment, la TVA, c'est la même pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, vous payez la même TVA. Avec ces éléments-là, il ne faut jamais courir trois lièvres, même pas deux. Donc si on court un lièvre qui est le salaire net, on peut considérer que la TVA sociale est une piste.
Voilà, une piste. Alors l'autre solution, ça serait de faire basculer les cotisations non pas vers la TVA, mais vers la CSG.
Oui, absolument. On n'a que deux impôts à assiette très large et à taux très bas, voilà, qui sont deux merveilleuses inventions françaises que là, pour le coup, le monde entier nous a copiées. Alors là, pareil, vous faites les plus et les moins. Si je fais basculer ça vers la CSG, j'ai quelque chose de beaucoup plus juste, parce que je fais payer tous les revenus. Je fais payer les revenus du travail, bien sûr. Je fais payer les revenus du capital. Je fais payer les pensions de retraite. Et puis, c'est une assiette plus large que la TVA. En plus, on peut rappeler quand même que la CSG, quand elle a été créée par Michel Rocard, elle a été créée pour financer des dépenses sociales. En l'occurrence, il s'agit là de financer des dépenses sociales. C'est pas normalement le job de la TVA. Oui. C'est davantage le job de la CSG. Donc, voilà. Là, vous avez les avantages à utiliser la CSG plutôt que la TVA. Mais vous avez les inconvénients. Car si vous l'utilisez la CSG, eh bien, vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net. Donc voilà, vous aurez un effet baisse du coût du travail, c'est absolument certain, mais vous n'aurez pas d'effet sur le salaire net et vous n'aurez pas non plus l'effet compétitivité que j'ai décrit plus haut. Donc la TVA sociale transfère la facture sur le consommateur, la CSG sociale transfère la facture sur les revenus. Très bien. Ça n'est qu'un jeu de bonneteau quand même. C'est toujours la même facture élevée que l'on fait passer d'un payeur vers un autre payeur, mais ça ne change pas le montant de la facture.
Voilà, reste la question, comment augmenter le salaire net?
Ça fait depuis 2007 qu'on en parle. Des économistes, notamment Philippe Aguillon, avaient soutenu ça en 2012, on est en 2024. Bon, s'ils veulent aller dans cette direction-là, il faut se lancer maintenant.
Merci beaucoup Nicolas Dose pour ce regard sur comment augmenter le salaire net. Chronique à retrouver en podcast, en replay sur l'application BFM Business et puis bien sûr sur YouTube, sur la page de BFM Business si vous aussi vous voulez participer à la discussion. On va se poser la question de comment les bourses se comportent en temps de guerre. Ça nous concerne malheureusement en ce moment. À suivre.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Notre décrypteur, c'est Julien Nebenzal ce matin. Bonjour Julien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes senior advisor chez Advice. Les bourses en temps de guerre. Alors aussi, surprenant que cela puisse paraître, les marchés se soucient parfois comme d'une guigne des conflits armés. Est-ce le cas en ce moment ?
Alors, le propre des guerres du point de vue économique, c'est qu'on modifie la direction de certaines ressources vers des... zone économique dont on a besoin. Ce qui est très connu, c'est les munitions, par exemple. Évidemment, à structure de production, je dirais, qui progresse peu, comparable, il y a forcément d'autres choses qu'on va moins produire. Donc, dans ces moments-là, finalement, la production reste à peu près au même niveau. C'est juste la typologie de produits qui change. Ce qui voudrait dire, si on redescend au niveau des entreprises, qu'il y a des entreprises qui bénéficient de cette nouvelle allocation de ressources et d'autres qui en pâtissent. Mais au total, on peut dire d'une certaine manière que l'essentiel est préservé. C'est peut-être sous cet angle que la réponse peut être donnée sur le fait que la bourse s'en soucierait comme d'une guigne. En ce moment, la transition vers une économie de guerre est très lente du point de vue économique. On a vu très très peu de choses. Donc pour le moment, les opérateurs financiers, les analystes, les économistes, les gérants regardent surtout l'état de l'économie telle qu'elle est, avec une petite, toute petite direction vers l'économie de guerre. Maintenant, il y a un autre élément qui est souvent utilisé dans les statistiques, c'est de dire, entre le début du conflit et la fin du conflit, finalement, les bourses progressent. Alors, comme si c'était quelque chose d'abord de, un peu de contre-intuitif, voire... tellement contre-intuitif que ce serait presque du complotisme, d'une certaine manière.
Alors, on peut donner un chiffre concret concernant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, entre 1939 et 1945, le Dow Jones a augmenté de 50% au total. Ça fait du 7% par an. Ça, c'est un fait.
Voilà, c'est un fait. Alors, là, il faut recontextualiser à chaque fois ces données-là. Alors, sur les actions, c'est surtout sur les marchés américains qu'on va voir ça, parce qu'on a très peu de données en Europe. Mais il faut recontextualiser parce que d'abord, pour ce qui concerne les USA, ce n'est pas eux qui rentrent en guerre en 1939, mais au contraire, eux qui vont vendre plus d'armements potentiellement. Donc c'est déjà une nouvelle qui est bonne. S'il y a de l'investissement à réaliser, c'est-à-dire des liquidités disponibles, elles vont se diriger spontanément vers les USA qui sont protégés de par leur situation géographique. Donc c'est pas aberrant que les cours montent. Mais il y a aussi une autre lecture. C'est qu'on regarde de date à date, je dirais de manière calendaire, le début d'une guerre et la fin d'une guerre, mais les marchés financiers en général ont déjà escompté beaucoup de choses. Et notamment, ils auront escompté le fait qu'on va changer de forme d'économie pour qu'une partie de notre économie soit en économie de guerre. Qu'on soit d'ailleurs un pays, par exemple, occupé ou un pays qui dispose de ses propres frontières. Donc en fait, là, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la bourse a baissé, si elle a baissé, un peu avant cette date.
L'information était déjà pricée.
Voilà, je dirais qu'au total, sur ce qu'on peut voir aux États-Unis sur les différentes guerres, 39-45, 14-18, guerre de sécession aussi, et ce qu'on peut regarder sur la bourse de Londres au moment des guerres napoléoniennes, au total, il n'y a ni grande baisse ni grande hausse. Au total, c'est une forme de période de transition.
Des périodes de transition. Vous disiez tout à l'heure que la transition vers l'économie de guerre était assez minime pour l'instant. À quoi l'identifie-t-on ? Quels sont les signaux qui montrent qu'il y a une transition, même légère, vers une économie de guerre ?
Les gens qui ont connu l'économie de guerre, en fait, sont plus que centenaires aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas témoigner. Ce sont les livres d'histoire qui vont nous dire. Mais il suffit simplement de se promener dans la rue et de regarder que la quasi-totalité de la production dont on a besoin pour notre vie courante de temps de paix est toujours disponible. C'est en ce sens qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de transition. Et puis ces choses prennent beaucoup de temps. Alors je vous propose par exemple une lecture qui vient de relativement loin. Il y a deux chercheurs américains qui ont identifié justement depuis la Renaissance des périodes d'un siècle où, pendant ce siècle, il y avait un état-nation qui était dominant. C'est-à-dire que c'est son économie, sa culture et sa technologie qui l'emportait. Et ils ont constaté que ça s'est produit 5 fois d'affilée. Portugal, Pays-Bas, 2 fois l'Angleterre, ces 2 révolutions industrielles, et ensuite les États-Unis. Ils se sont rendus compte que chaque puissance dominante dans le siècle, à un moment, perd de son hégémonie, perd de sa vigueur, parce qu'en fait, elle dépense de plus en plus pour soutenir son hégémonie. Ce qui est le cas des USA, qui est la dernière grande hégémonie, qui, à partir des années 60-70, se mettent à beaucoup dépenser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme elle dépense de plus en plus, eh bien, elle ne peut plus, à un certain moment, elle se retire de ces zones dans lesquelles elle assurait son hégémonie, et d'autres prennent la place. Et on en arrive à chaque fois, c'est ce que ces chercheurs ont montré, à un monde multipolaire. Et ce monde multipolaire, c'est le monde que nous vivons depuis maintenant 15-20 ans. La Chine a pris des espaces aux USA. La Russie, en ce moment, prend un espace en géopolitique aussi, le sien propre. L'Europe construit quelque chose, sa propre existence. Ce qui se passe, selon ces chercheurs, à chaque fois, c'est un conflit qui passe par une guerre, qui ne se résout que par une guerre. Et pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait des étapes qui soient franchies. En fait, quand on regarde 1940 en France, l'invasion allemande, en fait, des choses s'étaient déjà passées en 1934-1935. Sauf que nous, on retient une date en particulier. Mais plusieurs années avant, des choses se sont produites. En ce moment, on est exactement dans ce cas-là. Donc on est en train de répéter, peut-être c'est un trait comportemental de société, on est en train de répéter la notion du conflit qui succède en fait à la fin d'un leader pendant quasiment un siècle.
Si on effaçait le mot « guerre » et on le remplaçait par « terrorisme », la bourse en temps de terrorisme. Qu'est-ce qui change avec ce que vous venez de nous dire ?
Alors le terrorisme, c'est quelque chose qui est, alors je ne vais pas dire qui est récent, qui revient régulièrement dans l'histoire, mais qu'à certains moments on oublie parce que le terrorisme disparaît. Le terrorisme qui est présent, on va dire, en Occident, c'est le terrorisme qui est issu des visions radicales islamiques. C'est 1985 déjà en France. Quand ça survient, comme on n'a plus la mémoire et le souvenir, la réaction est extrêmement vigoureuse, extrêmement forte. On peut perdre plus de 5%, 7%, 10% quand arrive quelque chose. Mais ensuite, on arrive à mesurer l'impact réel économique. Et en fait, l'impact du terrorisme, c'est un impact de peur sur les sociétés. C'est pas un impact économique. Donc en fait, le terrorisme, petit à petit, devient, je vais pas dire un non-événement, mais un événement qui ne peut pas être... C'est pas une question d'amoralité. On ne peut pas prendre en compte cet événement parce qu'il n'a pas de conséquences économiques en soi. À l'exception, bien sûr, des attentats de 2001, où là, franchement, il y a quelque chose d'un peu plus important, puisque notamment les centres financiers sont touchés, parce qu'ils sont présents dans les deux tours. Mais sinon, le terrorisme, ça fait peur aux gens, mais pas, ça ne touche pas l'économie, ou extrêmement rarement.
Julien, on finit cette séquence Bourse et Guerre en parlant de cycle géopolitique.
Alors, ce cycle géopolitique, eh bien, il a commencé vraisemblablement, c'est celui que je décrivais tout à l'heure, il a commencé vraisemblablement à la, je suis toujours les deux chercheurs américains qui ont trouvé ça, à la Première Guerre mondiale. C'est la fin de l'Empire anglais, à ce moment-là, la fin de la livre comme devise de référence. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, est-elle le grand leader du siècle précédent ? Et les États-Unis vont prendre, grâce à la Première Guerre mondiale, grâce entre guillemets bien sûr, ce statut de leader mondial. C'est leur culture qui va dominer. Ça, en Occident, c'est quelque chose qui n'a échappé à personne. C'est leur manière de voir le monde aussi qui a dominé. C'est allé jusque aux conséquences, de, par exemple, des événements en Irak, de ce qui s'est passé sur la guerre en Irak. Mais à partir des années 60-70, apparaît le double déficit américain, à la fois commercial et budgétaire, qui est lié à la guerre du Vietnam, c'est-à-dire une position hégémonique qu'ils essaient justement de défendre. Et là, petit à petit, leurs déficits vont devenir de plus en plus importants. Ils vont avoir des difficultés à maintenir leur présence, notamment militaire, pas que, mais notamment militaire, et ils vont petit à petit reculer. Obama est un véritable artisan du recul des États-Unis sur la chaîne géopolitique. C'est une évidence. Trump ne fait qu'avancer des choses, mais Obama l'avait déjà enclenché. Donc c'est pas un phénomène qui est politique en soi, c'est vraiment un phénomène global. Donc les États-Unis se retirant, la Chine entre dans l'OMC dans les années 80, prend de plus en plus de place, son PIB commence à rejoindre le PIB des États-Unis, et donc la Chine prend sa place économique, elle prend sa place technologique aussi, sa place culturelle, ça se discute évidemment. Et puis, on a en ce moment, dans ce jeu justement de multipôles, on a la Turquie bien sûr, on a l'Inde qui joue sa propre carte, et puis on a la Russie. Et la Russie, c'est ce qu'on est en train de voir, puisque nous sommes, en tant qu'Européens, juste en face d'elle et dans ce conflit. Donc nous sommes rentrés là dans les cinq années les plus difficiles du point de vue du cycle géopolitique tel qu'il a été découvert par ces deux chercheurs américains que j'ai cités.
Rappelez-nous leur nom pour finir.
Joshua Goldstein, 1987, et George Modelsky, 1988.
Voilà, la perspective de Julien Nebenzahl pour vous dans Tout pour Investir, Senior Advisor chez Advise. Merci pour ce regard sur la bourse en temps de guerre et ce cycle géopolitique, ce nouveau cycle, enfin pas tout nouveau du coup, trentaine d'années dans lequel on est et qui, comment on dit, se cristallise, se révèle à l'aune des événements conflictuels de notre monde. Je vous précise qu'à 11h, Antoine Larigaudry depuis Euronext nous fera un autre point sur les risques géopolitiques. On parlera du secteur de la défense qui est en hausse. Est-ce lié ? Sans doute. On en parle à 11h05 avec Antoine. Vous restez avec nous, c'est l'heure de vous coacher, on va tout à fait changer de sujet. Ceci dit, on va continuer à parler des États-Unis puisqu'on va parler des arnaques, on va parler de Madoff. Et pas que de Madoff, des spin-offs de Madoff. Le Madoff du Texas, le Madoff du Maine-et-Loire. Vous allez voir ça dans quelques minutes. A tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
On vous coach ce matin comment identifier et réagir en cas d'arnaque. On va faire un tour d'horizon des différentes pyramides de Ponzi qui ont animé nos vies, nos chroniques médiatiques depuis l'affaire Madoff. On va parler du Madoff de la crevette, du Madoff du Maine-et-Loire, du Madoff du Texas, entre autres. Et puis surtout, on va vous donner des conseils, enfin pas moi, mais notre coach, c'est François-Xavier Sœur. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Lorraine.
Gestionnaire de patrimoine, Terra et Patrimoine. Et oui, parce que ça arrive à tout le monde les arnaques. Alors, pas qu'aux autres.
Ça arrive à tout le monde et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des points communs et des points d'alerte qu'il faut connaître pour les identifier. Il y a des choses qui doivent être une alerte et où on doit se dire, là il y a quelque chose qui éveille une question en moi en tant qu'investisseur, donc je dois me renseigner plus et creuser la question. Donc, c'est vrai que l'une des arnaques les plus connues, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. C'est une des plus, ou le système de Ponzi, c'est deux termes qu'on retrouve, alors du nom d'un escroc italien des années 20, dont la spécialité, en fait, c'était simple, hein, il disait, je vous promets un rendement extrêmement élevé. Alors, lui, il promettait de doubler le capital tous les 9 mois.
100% en 90 jours.
Voilà, c'est ça, tous les 90 jours, exact. Tous les 3 mois, il promettait de doubler le capital investi. Donc, forcément, avec l'argent qui rentrait, ça lui permettait de payer le capital et les intérêts des premiers qui étaient rentrés. Donc, c'est exactement le principe de la pyramide de Ponzi. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre pour payer ceux qui sortent. Et quand l'argent arrête de rentrer, la pyramide s'écroule. La pyramide de Ponzi a été rendue célèbre, on va dire, plus récemment, notamment par Bernard Madoff, puisque, donc, célèbre financier de Wall Street, qui a quand même fait une fraude. Alors, on ne sait pas exactement le montant, parce qu'on ne sait jamais exactement le montant des fraudes, mais entre 50 et 65 milliards de dollars. En fait, on n'arrive même pas à savoir à plusieurs dizaines de milliards de combien est la fraude, parce que ce sont des systèmes tellement complexes, tellement opaques, qu'on ne sait pas. Et en fait, il y a des personnes qui ont perdu, des fonds d'investissement qui ont perdu plusieurs milliards, et y compris d'ailleurs des fonds français.
Il n'y a pas que Madoff.
Il n'y a pas que Madoff.
Il y a aussi des Madoff chez nous, du côté d'Angers.
C'est ça, on a tendance du coup à les appeler le Madoff 2. Donc on se retrouve avec le Madoff du Maine-et-Loire. Alors le Madoff du Maine-et-Loire, c'est quelqu'un qui présentait extrêmement bien. Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas être dans la caricature. C'est quelqu'un qui présente bien, qui parle bien, qui était extrêmement bien introduit auprès de la bourgeoisie, on va dire, locale angevine, et qui a vendu des produits en disant « Mon produit, il est garanti en capital, il est disponible tout le temps, il fait... » des rendements élevés, et il promettait en fait du trading algorithmique via Hong Kong, via l'Asie, enfin des choses extrêmement complexes. Et comme il présentait bien, il envoyait des rapports avec des bons rendements, etc. Et puis il promettait en plus de donner 10% du rendement à des associations caritatives. Donc sur le papier tout va bien, mais en fait non, sur le papier tout va pas bien. Parce qu'en fait quand on vous dit je vous fais du garanti en capital et du disponible tout le temps, ça s'appelle du livret A. Et si jamais on vous dit disponible tout le temps, garanti en capital et rendement élevé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc ça, déjà, ça doit arrêter immédiatement. Il a quand même pris 11 millions d'euros. C'est la fraude en moyenne, c'est 180 000 euros par famille. Donc c'est quand même extrêmement grave. Alors après, il y a d'autres cas. Quand on part du côté du Texas, effectivement, donc on a le Madoff texan, on va dire, le Madoff du bœuf, lui. Alors c'est deux texans.
C'est récent, hein, l'arnaque angevine, on parle de 2014.
Oui, c'est ça, 2014.
Là au Texas, vous nous emmenez
2021. 2017, 2021, ça a fini en 2021. En fait, la société a été créée en 2017 et ça a été de 2019 à 2021. Ils ont levé près de 190 millions de dollars. C'est énorme, avec des promesses de rendement de 15 à 20%. Ils promettaient d'acheter des bœufs, de les élever, de les revendre. Donc, relativement simple dans la construction. Et ils promettaient des rendements de 15 à 20%. Déjà, ça doit poser question. Deuxième question, c'est qu'en fait, ils disaient, si vous investissez plus de 100 000 dollars, le rendement, il passe de 15 à 30.
C'est aucune logique.
Ça, c'est une arnaque. Ça doit être... Alors, vous pouvez avoir des fonds, par exemple en France. Moi, j'ai des fonds où quand vous investissez plus de 100 000, plus de 500 000, vous avez les frais qui baissent. Donc, les frais baissent. Donc, votre rendement net peut passer de 6 à 7 ou à 7,5.
Pas à faire fois 2.
Mais il ne passe pas de 15 à 30. Déjà 15, c'est énorme. 30, il faut quand même se poser des questions. Mais en fait, dans l'imaginaire collectif américain, il faut voir que l'image du cow-boy, c'est rassurant. Le cow-boy texan, on a plus confiance dans le cow-boy texan que dans le financier de Wall Street. Bon, là, malheureusement, c'était peut-être pas le bon choix.
Bon, allez, une dernière arnaque quand même pour faire le tour d'horizon. Vous nous emmenez au Brésil, du côté de la crevette.
Voilà, c'est ça.
Alors, dans l'industrie de la crevette.
Du côté de Toulouse, à la base. Parce qu'en fait, c'était du côté de Toulouse, puisque c'est alors quelqu'un qui, là aussi, vous voyez, roulait en Jaguar avec chauffeur dans le centre de Toulouse. D'ailleurs, le Madoff du Maine-et-Loire, c'était la même chose. Il avait une Ferrari, il avait deux Aston Martin.
Ferrari Dino. Attention si votre conseiller conduit une Ferrari Dino.
Oui, attention si votre conseiller roule en Ferrari, je crois, d'une façon générale. Mais en tout cas, il y a ce point commun, attention, au niveau des escrocs, visiblement. En tout cas, le Madoff de la crevette, il promettait des rendements à 20% sur de l'investissement dans des fermes de crevettes, essentiellement au Brésil. Et là aussi, des soirées dans des hôtels luxueux pour les investisseurs, du champagne, des démonstrations de capoeira. Il était reçu par la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, là aussi,
Toulouse, hein,
Toulouse, on parle bien de Toulouse. Et il a quand même levé 16 millions d'euros. Et là, on parle là aussi de quelque chose qui a lieu il y a quelques années. Hein. On ne parle pas des choses qui ont 20 ans, 30 ans. C'est vraiment des exemples qui remontent à il y a quelques années. Et puis, des personnes informées. C'est-à-dire qu'il a arnaqué entre 120 et 150 personnes, exactement, on n'a pas le nombre, mais dedans, vous avez des magistrats, vous avez des médecins, vous avez des pharmaciens, vous avez des policiers, donc des personnes qui ne sont pas des professionnels de la finance, mais qui sont des gens informés. Il ne faut pas imaginer que l'arnaque, c'est que la mamie qui a 90 ans qui se fait démarcher au téléphone entre midi et deux. C'est pas ça l'arnaque. L'arnaque, c'est des gens qui présentent bien, qui viennent vous voir et qui vous promettent des choses qui ne sont pas réalisables, en vous disant « moi, j'ai quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs, j'ai la solution, j'ai quelque chose d'exceptionnel, et c'est un privilège de pouvoir investir avec moi et chez moi ». Et ça commence souvent comme ça.
Bon, on l'entend. On fait le catalogue un peu des arnaques les plus, comment dire, divertissantes à raconter, mais c'est très sérieux. Et surtout, vous allez nous donner une grille d'action, François-Xavier, bonnes réactions à avoir en cas de doute.
C'est ça, c'est très sérieux parce qu'il y a des gens qui ont mis fin à leur jour. Quand vous avez tout votre patrimoine qui disparaît sur une arnaque, vous avez la honte d'avoir été arnaqué, il y en a qui se sont suicidés dans les cas que je vous ai donnés. Donc c'est extrêmement sérieux. Et quand on a un doute, quand on commence à avoir une lumière qui s'allume, alors le mieux c'est qu'elle s'allume avant d'investir. Il y a une première étape souvent, c'est d'aller sur le site Épargne Info Service. C'est un site qui est commun à l'AMF et à l'ACPR. Donc ça regroupe en fait tout ce qui est lié donc à tout ce que vous pouvez retrouver dans l'univers bancaire, dans l'univers assurantiel, c'est justement l'intérêt. Et en fait, c'est une liste noire. Donc c'est une liste noire des sites.
On l'appelle souvent la liste noire de l'AMF.
La liste noire de l'AMF, c'est un petit raccourci, mais effectivement, on l'appelle la liste noire de l'AMF et c'est actualisé très régulièrement. J'y suis allé hier pour préparer ce moment et ça avait été actualisé à vendredi. Mais attention, les arnaqueurs et les escrocs ont toujours un temps d'avance.
C'est souvent du déclaratif avec lequel cette liste est mise à jour.
Et il faut quelque chose qui remonte, il faut qu'il y ait une alerte de quelqu'un qui remonte pour que la liste soit mise à jour. Donc, il y a toujours un peu de retard. Alors, j'ai regardé les derniers qu'il y avait en ce moment, ce qui est à la mode. C'est essentiellement du cryptoactif. C'est de l'usurpation d'identité. Et on retrouve toujours le Forex. Alors ça, le Forex, ça fait 10 ans qu'il y a de l'arnaque sur le Forex. Le Forex, c'est les devises. C'est le fait de trader de la devise. Voilà, le Forex, globalement, vous êtes un particulier, il mettait pas les pieds. Vraiment, on y mettait pas les pieds. C'est le meilleur moyen de se faire avoir. Donc, vous pouvez aussi appeler. Vous avez une plateforme où vous pouvez appeler. Vous avez des personnes qui vous répondront. Donc, appelez, posez des questions. C'est gratuit, c'est fait pour. Et on vous donnera un premier son de cloche.
Épargne Info Service sur le site de l'AMF.
Ça, c'est si on a un premier doute. Par contre, si l'arnaque, elle est avérée, si on se rend compte que véritablement quelqu'un est parti avec votre argent, c'est comme si vous vous faites voler votre portefeuille dans la rue avec de l'argent dedans. Vous vous êtes fait voler, il faut que vous alliez à la police ou à la gendarmerie porter plainte. Il faut aller porter plainte. C'est la première des étapes. Quelqu'un est parti avec votre argent, allez porter plainte. Et j'insiste là-dessus parce que il faut déjà que, si ça ne marche pas pour vous, au moins ça protégera d'autres personnes parce que peut-être que ça mettra fin à cette escroquerie. Par contre, vous ne reverrez pas votre argent. Pour être très clair, quand l'argent a disparu, ce n'est pas le rôle de l'AMF et de la CPR de vous rembourser. Vous avez été escroqué sur ce qu'on a vu avant, de la crevette, du bœuf, de la crypto, de l'usurpation d'identité, etc. L'argent est perdu. Il n'y a que si votre banquier a fait une erreur, ne vous a pas informé. Par exemple, vous aviez 80 ans, vous avez fait un virement en Estonie, votre banquier ne vous a pas dit « attention, il y a un souci », vous pouvez éventuellement vous retourner vers votre banque et vers la responsabilité du banquier.
Éventuellement.
Éventuellement, parce que moi j'ai déjà eu un cas. Alors j'ai déjà vu passer un cas, alors pas via mon cabinet, je précise, mais le banquier a dit attention monsieur, ne faites pas ce virement. La personne a signé une décharge à sa banque en disant si, c'est sûr, pas de souci, je fais le virement. C'est parti sur un site en Estonie. De la crypto, la personne a promis ne vous en faites pas, il va y avoir du rendement, on lui a envoyé, regardez les rendements sont super, etc. Et quand il a voulu récupérer de l'argent, on lui a dit, mais monsieur il faut payer de l'impôt, donc vous nous devez tant. Et il a fait un virement, deux virements, trois virements pour les impôts.
L'engrenage.
Et en fait, c'est ça qu'il faut éviter. C'est l'engrenage. Et c'est l'engrenage qui est terrible. Avec des personnes qui peuvent vous appeler et vous dire, je suis des impôts, je suis de la police, je suis un magistrat. Comment ça? Vous ne voulez pas payer? Eh bien, je vais en parler à vos enfants. Je vais en parler à votre épouse ou à votre époux. Et en fait, ce sont des personnes qui sont dans un engrenage, qui parfois nient et ont du mal à accepter d'avoir été escroquées. Ce sont des sommes énormes. Ça peut être l'argent de toute une vie qui est parti, et c'est extrêmement dur à accepter. Ce sont des cas qu'on n'aime pas croiser dans notre vie professionnelle.
Voilà, que faire en cas de doute? Première vérification sur le site Épargne Info Service. Ensuite, porter plainte. Il y a aussi le site Pharos où on peut faire ça en ligne, Pharos, Pharos. Et puis vous nous dites, évitez l'engrenage, parce qu'au-delà du point de contact de l'arnaque, derrière, il y a des gens qui se font passer pour des faux avocats, des faux fiscalistes, des faux percepteurs d'impôts qui vont après potentiellement prendre langue avec vous. Merci beaucoup François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine Terra et Patrimoine, pour ce coaching en arnaque. On le sait, ça arrive, et ça arrivait hier, ça arrive aujourd'hui malheureusement, ça risque de continuer à arriver demain. Vous restez avec nous, deuxième partie de Tout pour investir juste après la pub. Nous allons parler d'immobilier, nous allons parler de Chine. Faut-il investir en Chine en 2024? On fera le point avec un gérant qui pense que oui. Et puis on réfléchira à comment débuter une collection, comment devenir collectionneur, comment estimer la valeur d'un objet, notamment par exemple celui du cigare de Winston Churchill. On fera ça avec la maison Christie's en fin d'émission. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.